Bienvenue sur le podcast Écrire pour soi, où on parle d'écriture et de motivation. Je m'appelle Camilla Morel et je suis autrice de romans imaginaires et libraire. Dans ce podcast, je souhaite vous appuyer dans l'écriture de votre roman, mais surtout vous aider à avoir confiance en votre écriture. Vous pouvez me retrouver sur Écrire pour soi chaque semaine pour faire le plein de motivation et d'assurance, mais aussi sur le Instagram Camilla Morel avec un zéro pour le haut. Le point d'honneur du podcast, trouver le plaisir dans sa passion, en se déculpabilisant. Et maintenant, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine et que ça se passe bien pour vos projets. Cette semaine, on se retrouve pour un épisode que j'avais vraiment, vraiment hâte de vous faire. C'est quelque chose que je repousse depuis quelques temps parce que j'attendais le moment parfait. Parce que je trouve que c'est un épisode vraiment important, vraiment intéressant. Et je me disais que ça pouvait être peut-être enrichissant pour ceux qui n'ont jamais fait de bêta lecture pour l'instant. Mais voilà, j'attendais le bon moment, j'attendais d'avoir terminé toute mon expérience de bêta lecture. Finalement, il reste quelques petites étapes, on va dire. Je vais vous en parler plus tard, mais c'est pas grand-chose au final et ça va pas tellement changer mon opinion sur mon expérience. Alors, je vais diviser l'épisode en deux parties, peut-être trois. On va voir comment ça se passe. Mais je pensais au moins faire un épisode sur mon expérience avec la bêta lecture et un autre épisode sur, les mesures à prendre pour que ça se passe bien, que ça se passe au mieux. C'est sûr que c'est des genres de précautions. Ça ne garantit pas que l'expérience de bêta lecture va être telle qu'on la voudrait. Mais je pense que c'est vraiment un bon début pour, justement, s'éviter des mauvaises surprises et éviter des mauvaises surprises aussi à nos bêta-lectrices. Et je pense qu'une partie 3 sur ce que la bêta-lecture m'a appris pourrait être intéressant. À vous de me dire si ça vous tente d'avoir ce troisième épisode. C'est clair en tout cas que je fais les deux premiers. Et récemment, je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions par rapport à mon expérience de bêta lecture. Et vous m'en avez envoyé pas mal, pardon. Alors, je vais répondre à ça aujourd'hui. Premièrement, comment on a fonctionné? Donc, comment j'ai demandé à mes bêta lectrices de fonctionner? On s'est fait un groupe sur Instagram. Pour cet épisode-ci, je vais sauter la partie recherche de bêta lectrices parce que ça va être dans le prochain épisode. Mais disons qu'on a commencé par prendre contact et j'ai décidé de faire un groupe sur Instagram avec les 5 bêta lectrices que j'ai trouvées qui voulaient m'aider pour rendre mon roman meilleur. Moi, j'ai demandé spécifiquement dans ma demande de bêta lectrice que je voulais que le travail se fasse sur Google Docs et que tout le monde soit sur le même document parce que quand j'ai fait une bêta lecture pour les 4 premiers chapitres de mon roman, donc les 7000 premiers mots pour la formation Licard, où un éditeur revoyait mes 7000 premiers mots, j'ai laissé tout le monde un peu faire comme bon leur semblait. J'avais 11 personnes, si je ne me trompe pas, et c'était séparé sur des documents Word, des Google Docs, personne n'était sur le même document. Et c'était vraiment infernal de prendre les retours en compte. On pourrait dire que le fait qu'elles soient ensemble, ça peut affecter leur opinion. Mais en vrai, je pense qu'il faut faire confiance aux bêta-lectrices par rapport à ça. Moi, j'ai fait confiance à mes bêta-lectrices et je sais qu'elles ont été capables de se détacher de l'opinion des autres. Et ce que ça permettait aussi, le fait qu'elles soient ensemble, c'était que je pouvais voir si, par exemple, la première qui passait avait une opinion qui revenait souvent. Donc, une bêta-lectrice pouvait me dire telle chose sur telle phrase et quelqu'un pouvait la contredire ou dire plus un dans le sens « oui, je suis d'accord, tu devrais revoir ça ». Donc, ça me permettait vraiment de prendre le pouls et de voir si certains jugements étaient généraux ou si c'était vraiment une question de goût un peu plus subjective. Donc, il y avait ça, mais il y a aussi le fait que j'avais vraiment pas envie de me casser la tête à avoir 4-5 documents différents où j'allais devoir prendre les commentaires en compte. Donc là, pour ma deuxième réécriture, j'ai juste pu me rendre sur le Google Doc où il y avait toutes mes bêta lectrices et j'ai pu prendre les commentaires plus faciles à prendre en compte, on va dire. Donc des commentaires de forme et des modifications qui se font facilement directement sur le Google Doc. Et seulement après, j'ai transféré sur Word à nouveau. Vraiment, j'aurais vraiment pas aimé devoir transférer entre comme 5 documents différents, voir les commentaires de tout le monde. Je suis sûre que j'aurais oublié des commentaires, que j'en aurais manqué certains. Et j'avais pas envie de ça. C'est un peu trop de gestion aussi. Donc voilà, je préférais faire ça. Et j'aurais tout simplement pas accepté de travailler avec quelqu'un qui... ne voulait pas être sur le même document Google Doc que d'autres personnes. Je sais, ça paraît un peu harsh ou dur, mais c'était mon point le plus important, en fait, presque, là, pour la bêta lecture. Et c'est pour ça que je l'ai mentionné dès le début, parce que je voulais pas que la collaboration soit difficile ou qu'une personne soit lésée dans le processus. Ensuite, comment je fonctionnais? On m'a demandé c'était à quel stade la bêta lecture. En fait, j'ai écrit mon premier jet toute seule, sans rien montrer à personne pendant 3 mois. Après, j'ai pris une pause de 1 mois. Puis, j'ai commencé ma réécriture le 1 janvier ou quelque chose comme ça. Et chaque fois que je terminais un chapitre, je le mettais dans le Google Doc afin qu'il soit disponible pour mes bêta lectrices. Donc, elles avaient ma réécriture 1, ma première réécriture, au fur et à mesure de mon avancement. Chaque fois que j'ajoutais un chapitre au Google Doc, je le disais dans le groupe Instagram pour que tout le monde soit avisé, pour que personne oublie ma bêta lecture un petit peu. Je trouve que ça faisait comme peut-être une petite piqûre de rappel chaque fois. Mais je spécifiais chaque fois, pas de pression, c'est juste pour vous en avertir, parce que honnêtement, j'étais même pas certaine que mes bêta lectrices avaient une notification quand je faisais des modifications ou que j'ajoutais des passages, donc j'aimais mieux le dire. Aussi, j'ai pas fait ça pour 100% des chapitres, mais ça m'arrivait d'écrire en début de chapitre, de laisser un petit commentaire en fait en marge et de dire « Pour ce chapitre-là, j'aimerais que vous portiez attention » que vous portiez une attention particulière à tel ou tel aspect, donc par exemple l'évolution psychologique d'un personnage, ses émotions, comment il se sent, ou encore une relation entre deux personnages, ou plutôt le réalisme, vraiment peu importe. Dès que j'ai un gros doute, on va dire, sur quelque chose, dès qu'il y a quelque chose dont je suis vraiment pas certaine et que j'ai l'impression de rater, on va dire, ou d'avoir moins bien réussi, ben là, je mettais ça en début de chapitre. Quand j'avais des doutes, que je savais que quelque chose fonctionnait pas, mais que j'arrivais pas à voir quoi, j'écrivais un commentaire en marge aussi, et je disais, ça, je sais que ça fonctionne pas, je sais juste pas pourquoi. Et sinon, je disais parfois, tel petit détail, je sais que ça fonctionne pas, et que c'est incohérent avec... autre chose, mais j'ai pas eu le temps de l'arranger. Et là, je faisais juste notifier mes bêta lectrices pour pas qu'elles perdent de temps à me le dire, vu que je le savais déjà. Aussi, quand j'avais besoin de l'avis de mes bêta lectrices sur quelque chose en particulier, je posais la question en marge, encore une fois. Donc, il y avait beaucoup de... ben, pas beaucoup, en fait. Il y avait quelques commentaires de ma part sur le texte et mes bêta lectrices pouvaient répondre n'importe quand elles... arrivaient sur le chapitre où j'avais laissé le commentaire. Donc, par exemple, à un moment, je me disais que j'avais peut-être trop de personnages secondaires et que ça faisait en sorte que j'arrivais pas à les développer tous à leur juste valeur. C'était un sentiment que j'avais depuis le premier jet et que je voulais en fait valider ou infirmer avec mes bêta lectrices. Alors, je leur ai demandé « Qu'est-ce que vous pensez de ces deux personnages-là, que je vais pas nommer, je pense qu'ils sont vraiment pas assez développés, qu'ils se ressemblent peut-être même trop. Donc, je pourrais les jumeler ensemble, faire un genre de mix de leurs caractéristiques et de leur utilité dans l'histoire, puis en enlever un des deux, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Elles étaient toutes d'accord avec ma décision. Et je vous avoue que, en posant la question, ben, j'ai répondu moi-même et j'ai juste attendu leur réponse pour voir si elles me confirmaient mon ressenti, mais ma décision était déjà prise et j'avais déjà viré le personnage en question de l'histoire pour les chapitres d'après. Donc, à partir, disons, du chapitre 40-quelque, quelque chose comme ça, ben, y a un personnage qui a pris le bord, qui est disparu et mes bêta-lectrices étaient avisées, mais c'est ça, j'ai décidé de l'enlever tout de suite, comme ça, j'avais pas besoin de l'enlever pour les 20-25 derniers chapitres dans la deuxième réécriture et ça m'enlevait un peu de travail pour la deuxième réécriture. Aussi, le document que j'ai monté sur Google Doc avait quelques particularités. Alors, au début, donc première page, j'ai écrit « Informations pour les bêta-lectrices ». J'ai noté quelques infos sur mon texte, j'ai écrit un petit peu ce que je voulais faire avec le texte et j'ai écrit ce à quoi je m'attendais de leur part. Donc, quel genre de retour était le plus important pour moi. Donc, j'ai spécifié que j'avais pas besoin d'aide nécessairement sur l'orthographe, la grammaire, ce genre de choses-là. Et de toute façon, c'est pas le travail d'un ou une bêta-lectrice de corriger vos fautes. En général, c'est plutôt une correctrice ou un correcteur qui va faire ça. J'ai spécifié que si elle voyait des répétitions flagrantes, elle pouvait me les noter, mais que c'était vraiment pas ma priorité et que ma priorité, en fait, c'était le fond du texte. Donc, les personnages, le rythme, à quel point l'histoire est entraînante, à quel point l'histoire est intéressante, la cohérence, la vraisemblance, la logique, ce genre de choses-là. Donc, vraiment des trucs de fond. Et dernière chose concernant le fonctionnement de la bêta-lecture, vu qu'on avait un groupe de bêta-lecture, on va dire, sur Instagram, ça m'arrivait parfois d'aller leur demander de l'aide. Et vraiment, mes bêta-lectrices ont été des anges. Vraiment, j'aurais pas les mots, en fait, pour expliquer à quel point je leur suis reconnaissante de toute l'aide qu'elles m'ont apportée pendant l'écriture, ou plutôt la réécriture de La Traverse Rêve. Mais parfois, ça n'allait pas trop. Je doutais sur un sujet par rapport à mon roman et elles savaient me réconforter. Et parfois, je me disais, tel passage, finalement, ça fonctionne pas trop, c'est pas hyper logique, ou c'est pas assez important, ou peu importe, un passage fonctionne pas et j'ai besoin de le régler, est-ce que vous pouvez m'aider? Et là, on s'envoyait des vocaux et elle m'aidait à brainstormer pour régler les problèmes de mon manuscrit, en fait. Et à chaque fois, c'était vraiment magique, on va dire, dans le sens que parfois, quand on écrit, quand on a la tête dans le guidon, comme on dit, quand on est dans notre texte depuis hyper longtemps, on se rend plus vraiment compte des problèmes, mais aussi on n'a plus d'idées pour changer le roman parce que notre roman est comme ça dans notre tête. Et c'est difficile pour nous d'envisager une autre option que celle qu'on a déjà choisie. En tout cas, pour moi, c'est ça. Je ne sais pas pour vous. Mais moi, ça m'arrive vraiment de savoir que quelque chose ne fonctionne pas, mais de ne pas arriver à me détacher de l'idée que j'avais au départ pour en trouver une meilleure. Alors ça, pour ça, les bêta-lectrices ont été vraiment géniales. Et elles m'envoyaient des vocaux. Est-ce que tu as pensé à faire plutôt de telle manière? Ou est-ce que tu as pensé que ce détail-là pourrait être changé et ça ferait en sorte que là, c'est sûr que je peux pas donner des exemples concrets pour ne pas vous spoiler mon roman. Mais voilà, elle me trouvait toujours des solutions ou parfois elle me donnait des idées pour que je trouve une solution. Et ben, ça m'a sorti de la merde, on va dire, plusieurs fois. Dans le sens que si elle n'avait pas été là, je sais pas combien de temps j'aurais mis à brainstormer. Mais brainstormer avec d'autres gens, c'est génial, et vraiment, il faut faire ça, c'est génial. Je sais pas comment l'exprimer autrement, mais si vous avez la chance d'avoir des copaines d'écriture de qui vous êtes proche ou des bêta-lectrices, ben je pense que ça peut vraiment être aidant pour vous de brainstormer avec eux, de leur demander leur opinion sur telle ou telle scène, tel ou tel chapitre, et de voir avec eux si ils pensent qu'il y aurait peut-être une meilleure option. Alors, c'est tout pour le fonctionnement, on va dire, de ma bêta-lecture. Maintenant, je vais vous dire si je le conseille. Et je pense que vous attendez à ma réponse. Mais évidemment, c'est oui. Je le conseille totalement. En fait, je pense que la bêta-lecture, c'est indispensable pour rendre un roman meilleur, pour lui donner une plus grande ampleur, pour lui donner plus de splendeur, pour que le lecteur soit plus satisfait à la lecture aussi. Dites-vous que des bêta-lecteurs, c'est un peu des lecteurs tests, donc c'est comme des... C'est comme si vous étiez dans un laboratoire et que vous faisiez des études sur les réactions que votre roman va apporter au lecteur. Et même si le bassin de bêta-lecteur est vraiment plus petit que le bassin de lecteur que vous allez toucher peut-être un jour, ben ça permet de prendre le pouls, comme je disais, sur les réactions, mais aussi sur est-ce que tel ou tel aspect est réussi? Est-ce que j'ai réussi mon travail d'auteur avec tel chapitre? Est-ce que j'ai transmis l'émotion que je voulais transmettre? Est-ce que j'ai réussi à surprendre le lecteur, si c'est ce que vous voulez? Est-ce que j'ai rendu justice à tel personnage? Est-ce que les lecteurs ont compris ce que je voulais faire avec les personnages? Est-ce qu'ils ont compris ce que je voulais faire avec l'histoire, ce que je voulais raconter? En fait, est-ce qu'ils ont compris l'intention littéraire que j'avais en écrivant le texte? D'après moi, la réponse ne sera pas oui à toutes ces questions, dans le sens que il y a des choses qui vont être à retravailler, même après une première réécriture, et même après une deuxième réécriture, et peut-être même après une troisième réécriture, dans certains cas. Et ben c'est souvent les bêta-lecteuristes qui vont vous aider à vous en rendre compte. Vraiment, pour moi, c'est presque obligatoire, dans ma tête à moi, en tout cas. Pour mes projets, c'est clair que ça va l'être. Je pense pas que je pourrais envoyer un projet en maison d'édition sans avoir pris le pouls, comme je disais, sans avoir essayé de voir comment ça se passait auprès des lecteurs, comment ils voyaient le roman. Parce qu'au-delà d'être des lecteurs tests, c'est aussi des lecteurs qui vont vous aider à comprendre ce qui fonctionne pas, comme j'ai dit, qui vont peut-être vous aider à mettre le doigt sur certains défauts, mais qui vont vous aider à voir ce qui fonctionne aussi dans votre texte, qui vont parfois vous aider à gagner en confiance sur certains points dans votre écriture, ou à vous rendre compte que vous avez besoin de beaucoup de travail sur tel ou tel aspect. Et comme je vous ai dit, le fait d'avoir des bêta-lectrices m'a aidé à trouver des solutions à certains problèmes parce qu'on faisait des séances de brainstorming ensemble. Je pouvais leur poser mes questions, leur demander leur avis sur plein de choses, et ça, c'était vraiment aidant. Et surtout, comme je faisais la bêta-lecture au fur et à mesure de la réécriture 1, si jamais il y avait un gros changement à faire dans le manuscrit, je pouvais commencer à l'appliquer à la fin pour qu'il y ait moins de travail à faire sur la réécriture 2, comme je disais tout à l'heure. Aussi, ça apporte une certaine motivation parce qu'on sait que quelqu'un attend d'avoir notre texte. Et aussi parce que, bon, même si les bêta-lectrices sont là pour nous aider à améliorer le texte et à voir ses défauts, ben ils peuvent aussi nous montrer ses qualités et nous montrer que tel aspect est réussi, et ça peut nous donner un petit coup de boost, un peu plus de motivation. En tout cas, moi, c'était le cas parfois. Et je tiens à dire que j'ai eu énormément de commentaires négatifs, et surtout d'une bêta-lectrice en particulier, mais que chaque fois, je me rappelais que ces commentaires-là sont là pour m'améliorer et que grâce à eux, je vais sublimer mon roman, je vais rendre le diamant brut un peu plus étincelant et tout. Il faut toujours se rappeler de ça quand on fait appel à des bêta-lectrices, des bêta-lecteurs, parce que sinon ça peut vraiment être une expérience un peu plus difficile. Mais si jamais vous savez que vous avez du mal à accepter la critique, ce genre de choses-là, j'ai fait un épisode de podcast à ce sujet. Il me semble que c'est comment accepter la critique, comment apprendre à accepter la critique, quelque chose comme ça. Peut-être que ça pourrait vous aider. Sinon, il y a sans doute d'autres ressources à ce sujet sur le web, sur Instagram, peut-être sur des blogs, ce genre de choses. Mais vraiment, si vous avez pour objectif de vous faire publier, je pense que c'est nécessaire, la bêta-lecture. C'est aussi le fait que si vous comptez publier plus tard, imaginez comment ça pourrait être difficile si vous n'avez jamais confronté vos écrits à quelqu'un auparavant, de faire en sorte qu'ils soient publiés, de réfléchir au fait qu'ils soient sur les rayons et que tout le monde puisse l'acheter s'ils veulent. C'est quand même fou. Moi, je pense que ça augmenterait mon vertige. Il y a aussi des raisons pour lesquelles je conseille de le faire en réécriture 1 et au fur et à mesure, donc en sorte d'alpha lecture, de réécriture. C'est parce que c'est vraiment un gain de temps, surtout avec un gros roman comme le mien. Si j'avais entendu toute la première écriture, le processus de réécriture et d'écriture de mon roman en général aurait vraiment été bien plus long. Donc j'ai terminé ma réécriture 1 fin mai et je pense que si j'avais attendu à ce moment-là pour donner tout mon manuscrit à mes alphas, plutôt mes bêtas, elles n'auraient toujours pas fini de lire mon manuscrit parce qu'il fait 180 000 mots et j'aurais été vraiment retardée dans mes objectifs. Donc il y a ça, mais ça dépend totalement de si vous êtes pressé comme moi, si vous avez des deadlines, ce genre de choses. Et surtout, comme je vous disais, ça permet d'appliquer des changements tout de suite. Donc si votre personnage prend le bord, vous l'enlevez dès le chapitre 40 au lieu d'attendre le dernier chapitre et le début de la prochaine réécriture. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps énorme. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je vous conseille définitivement pour toutes les raisons que j'ai citées. Donc le fait que ça aide en brainstorming, le fait que ça peut donner de la motivation, un gain de temps aussi, que ça permet d'appliquer tous les changements tout de suite. Vraiment pour moi ça a été génial, ça m'a permis de prendre confiance en certains aspects de mon roman et surtout à grandement l'améliorer. C'est grâce à mes bêta-lectrices si aujourd'hui je suis fière du roman que j'écris. Parce que c'est surtout en appliquant les modifications en fait qu'elles m'ont proposées que j'ai réussi à lui rendre justice, on pourrait dire. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, quelqu'un m'a demandé, ou plutôt m'a dit, j'imagine que c'est une méthode qui fait gagner du temps vu que tu devais avoir les résultats de la bêta juste après la réécriture. Mais est-ce qu'il y avait des lecteurs déroutés parce qu'ils lisaient plus vite que tu ne réécrivais? Pas tant que ça. Je faisais peut-être un chapitre par jour en moyenne ou parfois moins. Alors, je pense que c'est rare en fait des bêta-lecteurs qui peuvent lire à tous les jours parce que la bêta-lecture, c'est pas comme de la lecture normale. En fait, ça prend ça prend de la concentration un peu plus, je pense. Mes bêta-lectrices n'avaient pas que ça à faire non plus, elles ont une vie à côté et tout. Alors, c'était plutôt rare qu'elles arrivaient en même temps que moi. Il y en a une qui arrivait parfois en même temps que moi, une autre qui la redépassait et qui arrivait au même chapitre que moi. Et elles se battaient toutes les deux la place, on va dire. Non que c'était une compétition, mais je ne sais pas trop comment le mettre en mots. Et oui, quand elles arrivaient à la fin et qu'elles ne pouvaient pas avoir la suite, si c'était un cliffhanger, c'était un petit peu déchirant pour elles et elles étaient comme « Camilla, pourquoi tu nous fais ça? » Mais elles n'étaient pas fâchées ou quoi que ce soit. En tout cas, je ne pense pas. Et elles savaient que ça allait arriver sous peu, donc c'était pas grave en fait. Et surtout, elles avaient été averties, donc c'était un travail d'alpha lecture, de réécriture, donc c'était dans notre contrat, notre contrat inexistant, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, on m'a demandé si j'ai rencontré des difficultés. Je considère que non, ou en tout cas, quand j'ai vu la question et là maintenant que je la relis, rien ne m'est venu et il n'y a rien qui me vient pour l'instant non plus. Ça a vraiment été une belle expérience et comme je l'ai expliqué dans l'épisode sur comment apprendre à accepter la critique, moi je prends bien la critique en général. Donc j'avais pas spécialement peur de faire de la bêta lecture, de faire lire mon roman. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et que dans un sens on pourrait dire que je suis un peu privilégiée et que c'est plus facile pour moi que pour d'autres personnes. Mais je considère que j'ai pas rencontré de difficultés, en fait. C'est sûr que j'ai eu peut-être un peu peur quelquefois que certaines personnes arrêtent la bêta lecture ou que je perde en fait quelqu'un dans le lot de bêta lectrices. Mais c'est rien de grave, rien de dérangeant non plus. Donc ce serait ça ma réponse. Et aussi, on m'a demandé, est-ce que tu envisagerais une bêta lecture professionnelle dans le futur pour LTR ou pour d'autres projets? Pour l'instant, non. Surtout pas pour LTR. Je considère que je n'en ai pas besoin. Je vais expliquer pourquoi juste après. Mais je trouve que c'est très, très onéreux. C'est vraiment dispendieux, une bêta lecture pro. Je pense que c'est pas nécessaire pour moi, en tout cas. Voilà, tu sais, je veux pas dire que c'est trop cher ou quoi que ce soit, je sais que tout travail a un coût, mais pour moi c'est trop cher, c'est pas dans mon budget. Je préfère mettre mon argent ailleurs, surtout que je peux trouver des bêta lectrices qui sont vraiment passionnées par la bêta lecture et qui ont envie de m'aider gratuitement. Et bon, c'est facile à dire pour moi parce que quand j'ai fait ma demande de bêta lecture, il y a une personne en particulier qui s'est proposé, qui avait vraiment envie de m'aider à travailler sur LTR, qui avait l'air très enthousiaste aussi. Cette personne-là, c'est Astrid. Et Astrid est hyper, 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 hyper professionnelle, on pourrait dire. En fait, je considère que la bêta lecture qu'elle m'a fait aurait pu être payante, tellement c'était complet, tellement elle a mis du temps et de l'amour sur mon texte. Donc, on pourrait presque dire que j'ai eu une bêta lecture pro, en fait. En fait, je pense que je pourrais dire ça, parce que elle m'a mis énormément de commentaires. Je pense que c'est des centaines, peut-être même des milliers, je sais pas. Mais des fois, je me sens presque mal, en fait, de tout le temps qu'elle a mis sur mon texte. Et donc, c'est pour ça que j'envisagerais vraiment pas de faire appel à une BL pro, et de payer une BL Pro pour LTR en tout cas, parce que je considère que j'ai déjà eu une BL Pro, et je lui suis vraiment, vraiment reconnaissante, parce que elle m'a appris énormément de choses, et je vous fais un peu j'essaie de la vanter un peu, parce que je sais qu'elle pense peut-être à lancer ses services de bêta lecture pro, et moi, en tout cas, si un jour j'avais le budget de payer une bêta lecture pro, j'irais chez Astrid, j'irais lui parler de mes projets les yeux fermés parce que j'ai vraiment confiance en elle et en son jugement. Elle a discuté avec moi de certains points, elle m'a laissé beaucoup beaucoup de commentaires sur la forme, elle m'a aidé à me rendre compte de certains tics d'écriture que j'avais. Elle m'a laissé des gros pavés parfois aussi pour expliquer son point de vue sur certains aspects de mon histoire, certains trucs qui étaient moins réussis, mais elle a aussi été capable de me dire quand c'était bien fait, quand les passages arrivaient à lui donner des émotions. Vraiment, toutes mes bêta lectrices étaient des personnes en or, donc je me considère vraiment très choyée. J'aurais rien à dire en fait de négatif sur mon expérience parce que c'était juste génial. Chacune de mes bêta lectrices avait son petit truc spécial. J'avais Louison, qui est une amie de l'ICAR, avec qui je parle presque tous les jours maintenant, qui savait me motiver, qui savait m'apporter des petits trucs motivants à tous les jours. Parfois, elle se filmait en train de lire mon roman pour que je puisse voir ses réactions, et c'était vraiment juste trop émouvant pour moi. Elle m'apportait souvent des commentaires hyper pertinents aussi. J'avais Sophie, qui est hyper bienveillante, qui m'aidait parfois à me rendre compte de choses que j'avais moi-même pas vues, qui m'a souligné beaucoup de répétitions aussi. J'avais Marianne, et Marianne, je conseille... je souhaite à tout le monde d'avoir une Marianne dans sa vie parce que elle est hyper motivante. En fait, c'est comme un petit rayon de soleil plein de gentillesse qui est là pour vous remonter le moral quand vous avez une baisse de motivation ou de confiance en votre projet. Et j'avais Astrid, dont je vous ai parlé. Ensemble, elle faisait vraiment une équipe de choc. c'est ça. Donc, pour LTR, je pense pas que j'ai besoin de bêta lecture pro. Et je profite de l'épisode pour remercier Marianne, Sophie, Astrid et Louison parce que Ben en fait, je pourrais jamais vous remercier assez, je pense. Je suis vraiment reconnaissante de vous avoir eu dans ma team de bêta lectrice. Vous m'avez vraiment, vraiment aidée. Je pense que vous pouvez même pas concevoir à quel point. Et je sais que j'ai pas répondu à tous vos commentaires parce que ça aurait été interminable. En fait, je serais encore en train de répondre à vos commentaires en 2050. Mais sachez que j'applique presque toutes les modifications que vous, ben, dont vous me faites part, en fait, parce que je pense que vous avez un très bon jugement et surtout, je suis d'accord avec beaucoup des trucs que vous me mentionnez. Grâce à vous, LTR est vraiment un meilleur roman, un roman que j'aime, dont je suis fière. Et surtout, ben, vous m'avez permis de me sentir accompagnée pendant ma réécriture. Donc, je me sentais vraiment moins seule que pendant le premier jet. J'avais vraiment l'impression que j'étais enroulée dans un petit cocon de personnes bienveillantes qui allaient m'aider, peu importe ce qui se passait. Et ben, je transitionne vers la prochaine question. Est-ce que tu fais de la bêta lecture en retour et comment tu gères le fait de demander ce service? Parfois, je le gère très mal, honnêtement. Je me sens mal parfois ben, que des gens passent autant de temps sur mon roman parce que parfois j'ai l'impression de. Ben, en fait, je sais que je leur rends pas l'appareil vu que je leur fais pas une bêta lecture en retour. Ben, je pourrais pas tout simplement faire quatre bêta lectures pour quatre personnes en même temps. C'est impossible. Surtout que quand je fais de la bêta lecture, je m'applique énormément sur le texte. Donc, ce serait pas possible pour moi de faire de la bêta pour quatre personnes. Mais en fait, c'est ça. J'arrive pas à me sentir 100% bien vis-à-vis de ça parce que ça m'arrive vraiment de me sentir mal d'avoir demandé de la bêta lecture à ces gens-là. Mais c'est des personnes qui se sont proposées quand j'ai fait un appel. Donc, faut pas oublier ça. Faut pas oublier que on tord le bras à personne. En fait, c'est des gens qui se proposent la plupart du temps, à moins que ce soit une bêta lecture payante, évidemment. Mais personne ne les a obligés. En tout cas, c'est ce que j'essaie de me dire. Et vraiment, personne n'était obligé de terminer si jamais ça ne leur plaisait pas ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça m'arrive de me sentir très mal parce que je sais qu'elles ont passé plusieurs heures sur mon projet. Mais j'essaie de leur. En fait, je vais leur dire maintenant, sachez que ce projet, c'est aussi le vôtre d'une certaine façon, en fait, parce que il serait pas le même sans vous. Donc, vous pouvez vous dire qu'il y a une petite partie de Sophie, Astrid, Louison et Marianne dans LTR. Je pense que c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Dans le prochain, je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour m'assurer, en fait, ou plutôt pour augmenter mes chances que ma bêta lecture se passe bien. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il aura répondu à vos questionnements. Si jamais vous avez d'autres questions, des choses auxquelles j'aurais pas répondu, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram et je vais l'inclure dans le prochain épisode. Alors voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou à me contacter sur Instagram pour en discuter. Je poste là-bas très régulièrement et vous pourrez y retrouver du contenu sur l'écriture, la productivité, la lecture et la motivation. Nous nous retrouverons pour un nouvel épisode très bientôt. Jusque-là, j'espère que vous prendrez du plaisir à écrire pour vous.